Moi, c'est André Limbouchmaï, au Kassai Oriental. J'ai réfuté totalement ce qui
s'est passé. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Dans son dernier rapport semestriel qui analyse la conjoncture économique africaine publié la semaine dernière, la Banque mondiale révèle que les économies d'Afrique subsaharienne continuent de se redresser après avoir marqué le pas en 2015-2016, mais à un rythme plus lent que prévu. En 2018, la région devrait afficher un taux de croissance moyen de l'ordre de 2,7%, soit une légère augmentation par rapport aux 2,3% enregistrés en 2017. Pour accélérer et soutenir une dynamique de croissance inclusive, les responsables politiques doivent continuer de donner la priorité aux investissements qui privilégient notamment le capital humain et limitent les risques de mauvaise allocation des ressources de l'État, estime un économiste de la Banque mondiale. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-4969 et 09-97-06-4969 pour vos interventions en direct. Vous pouvez également commenter les sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Tati Mapoukou est à la réalisation de ce magazine, mise en onde par Jean-Claude Ntiala et Pierrot et la main jugée. Le réel plaisir de vous les présenter sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Déjà, nous vous informons que l'émission de ce mercredi à 10h sera consacrée au prix Nobel de la paix et nous serons en direct dans Parole aux auditeurs avec le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, pour une émission consacrée bien sûr à ces prix Nobel ainsi qu'à la question des violences sexuelles dans notre pays. Vous pouvez déjà reprendre rendez-vous et cet après-midi commenter déjà et vous inscrire sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, comme je l'ai dit, qui va demain se consacrer au prix Nobel de la paix ainsi et qu'à la lutte contre les violences sexuelles en recevant en direct le prix Nobel de la paix lui-même, docteur Denis Mukwege. On prend rendez-vous pour demain. Et nous parlons économie aujourd'hui avec cette question de la croissance et par rapport à la RDC, pays aux potentialités énormes. Comment arriver à capitaliser la croissance? Rappelons qu'en 2017, la RDC, les taux d'activité économique de la RDC a entraîné une croissance du produit intérieur brut réel de 3,2%. C'était en juin 2017 contre 2,4%. 4% en 2016. Comment la RDC peut-elle capitaliser sa croissance économique et ainsi profiter à la population, lutter contre la pauvreté? C'est la question au centre de notre échange. Kevin, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes en Bandaka. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix. Je remercie de m'avoir associé dans ces débats aussi importants. Je voudrais aborder la question en trois volets, en commençant par la notion de la conjoncture économique, et ensuite je vais parler de la croissance économique par rapport aux réalités congolaises et les investissements aussi par rapport à la notion des ingérences que tout le monde clame. Je voudrais commencer par la conjoncture économique parce que d'abord il faudrait rappeler que quand on parle d'une conjoncture, c'est-à-dire on fait allusion à une situation qui est passagère, qui ne dure pas, qui ne s'installe pas en éternité. Pour ce qui est des conjonctures économiques, on fait d'habitude référence aux évolutions économiques qui sont de court terme. Et ça va être l'évolution d'un ensemble économique aussi qui dépend de plusieurs indicateurs qui entrent en ligne de compte. On peut citer par exemple les taux d'échange, la croissance du PIB que vous avez évoqué lors de votre introduction, les taux d'inflation et autres, voire même la balance commerciale. Mais quand on voit ce qu'on peut entendre par la conjoncture économique et ce que nous sommes en train de vivre en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier, on voit que cela ne reflète pas les réalités de l'Afrique ou de la République démocratique du Congo parce que la situation en RDC est beaucoup plus contraire parce qu'il ne s'agit plus de questions de conjoncture mais c'est un système qui s'installe. Par exemple, quand on prend les cas des taux d'échange, le taux d'échange a connu de changements, a connu de pression depuis plusieurs années et puis ça reste comme ça comme un système. La croissance du PIB, dernièrement vous venez d'évoquer compliquer la situation de 2016 et 2017, voilà. Donc, déjà en 2016, nous avons connu une croissance du PIB de 3,2%, et en 2017, déjà, on connaît une baisse en raison de 2,4. Mais quand on prend sur le plan mondial déjà, au niveau de croissance du PIB, on a parlé des 30 glorieuses, c'est-à-dire des 30 années de croissance économique. C'est une situation qui a duré dans les temps, alors que chez nous, ça ne dure pas. Comme c'est dans le cadre d'une conjoncture, alors dans l'aspect croissance, cela ne marche pas dans la même lignée, parce que la croissance, enfin, j'aborde déjà le deuxième aspect de mon développement, la question de croissance, ce n'est plus le cas de conjoncture, parce que là, c'est le long terme. Parce que là, on fait allusion, par exemple, à une augmentation soutenue et durable de production, notamment de biens, ça peut être aussi des services, et c'est là quand même une période suffisamment large. Ce n'est pas pour une période courte. C'est le passé qu'on voit ici en RDC. J'ai évoqué les cas de croissance du PIB. Cependant, il faut faire maintenant remarquer que la croissance aussi ne signifie pas toujours développement. On a dit à l'époque de Matata ici que nous avions connu une croissance de 3,2. Mais actuellement, quand on compare avec la situation sociale, quand on compare avec le social du peuple congolais ou le social des peuples africains, on trouve qu'il y a vraiment un fossé, il y a un hiatus qui fait que ça ne rejoint pas le développement. Voilà pourquoi les économistes disent que la croissance sans développement, il peut y avoir croissance sans développement ou développement sans croissance, parce que ça ne signifie pas la même chose. Mais on trouve important que c'est le développement, et surtout le développement humain, que l'Afrique en a besoin. Voilà pourquoi on parle de l'amélioration de la situation sociale des populations, dont la pression démographique aussi barre la route aussi à la croissance. Parce qu'on doit aussi voir comment les populations évoluent, comment les populations sont en train de croître pour essayer de recadrer les besoins ressentis par la population. Et quand on prend maintenant l'aspect investissement, et là c'est la clé de tout, parce que les investissements, c'est la clé des croissances. Il faut aussi reconnaître là les responsabilités des politiques. Quand on a besoin des investissements, il faut faire allusion maintenant aux investissements qui sont durables. Alors qu'en Afrique tout entière, notamment l'Afrique subsaharienne, il y a ce qu'on appelle l'instabilité politique et sécuritaire. Ce qui fait que les investissements ne sont pas durables. Vous pouvez avoir des investisseurs étrangers, mais lorsqu'il y a du bruit de bottes, vous ne verrez pas les investisseurs continuent dans la même lancée, ils vont fuir. Et ce qui ne va pas faciliter aussi les investissements, ce qui ne va pas faciliter la durabilité. Avant, on parlait dernièrement ici, même lors du dernier passage du président de la République au Conseil, à l'Assemblée générale, des Nations Unies, on a parlé des ingérences. On est en train de voir les ingérences seulement au niveau politique. C'est là où on va clamer, c'est là où on va crier beaucoup. Or, les ingérences qui sont beaucoup plus redoutables et désastreuses, ce sont les ingérences économiques qui font que l'Afrique connaît un nivellement toujours vers le bas. Voilà, c'est-à-dire que le monde étranger, les Occidentaux et les Américains, ont tellement une mainmise dans nos économies qu'on ne peut pas évoluer. S'ils trouvent, par exemple, que nous sommes en train d'aller dans les bons sens, dans le sens d'améliorer la situation de nos populations, il s'accroche au niveau politique pour introduire des perturbations politiques.
Voilà, merci beaucoup Kevin. Merci Kevin. Vous avez axé votre intervention en trois points. La question de la conjoncture économique, la question de la croissance et des investissements. Mais pour vous, vous estimez que les économies comme les nôtres, surtout en cas de la RDC, il faudrait aujourd'hui lier la croissance démographique de la population et les décisions qui doivent être prises dans la question des investissements, qu'on ait des investissements durables qui permettent à ce que la croissance économique puisse aussi répondre aux besoins sociaux de la population. Mais on ne peut pas arriver à avoir des investissements durables dans des cas d'instabilité politique, par exemple. Merci beaucoup, Kevin Chrysostome. Merci, vous êtes à Goma. On vous a vu tout à l'heure sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, et votre message là est très intéressant. Bonjour, Chrysostome.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio
Capitale. On vous écoute.
Ouais, je disais que la croissance économique doit être basée sur les investissements durables. Et nous ne pouvons pas avoir des investissements durables dans les pays africains, où nous voyons que les gouvernements des pays africains, en tout cas, sont sont champions dans le détournement de ces fonds-là qui devraient booster l'économie et la croissance économique. Vous voyez, par exemple, on peut financer un projet qui pouvait engager autant de personnes, mais c'est difficilement qu'on peut arriver à voir les 20% de ce financement sur le terrain. Et parfois, vous voyez, il y a des fonds. Par exemple, la Banque mondiale donne des fonds. Vous allez voir au niveau de Kinshasa, ce sont les autorités qui veulent. Vous avez suivi dernièrement quand les autorités, par exemple, ici à MFDC, ils ont dit qu'ils doivent avoir contrôlé, ils doivent avoir de même mise sur les fonds qu'on envoie. Ce n'est pas un contrôle, comme on dit, mais c'est pour avoir leur part dans ces fonds envoyés, par exemple, par la Banque mondiale, FMI et autres. Et arriver au niveau des provinces, le gouverneur aussi doit se retrouver. Arriver au niveau des territoires où le projet sera installé. Et parfois, vous voyez les investisseurs pris au bagage parce qu'ils trouvent, par rapport à ses objectifs, à leurs objectifs, ils trouvent que, en tout cas, ils n'arriveront pas à faire ce qu'ils devraient faire par rapport à ce fonds-là qui était alloué, entrecoupé entre les mains des autorités. Et cela gangrène les économies des pays africains parce qu'on trouve que envoyer le fonds dans certains pays de l'Afrique où la corruption et le détournement, en tout cas, c'est monnaie courante, en tout cas, c'est inutile et la population ne bénéficie pas à ce fonds-là et le pays continue à être endetté, surendetté, alors que sur le terrain, on ne voit pas réellement cet investissement qui devrait booster l'économie et la croissance économique. C'est ça ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet.
Merci beaucoup, Chrysostome. Vous estimez que on ne peut pas arriver à maintenir une croissance économique élevée quand on n'a pas des investissements durables. Et vous avez aussi évoqué la question de détournement des fonds de corruption. Vous estimez que ce sont ces questions qui minent les efforts de gouvernement africain à pouvoir avoir des investissements solides qui puissent maintenir la croissance et qui puissent aussi permettre à sortir les populations de la pauvreté. Merci beaucoup, Chrysostome. Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute.
Par rapport à la thématique, moi je baserai ça sur trois aspects. D'abord l'électrification de la RDC. De deux, les infrastructures routières et ferroviaires. De trois, les ressources humaines. Puisqu'on ne peut jamais parler de la stabilité du Congo sans l'électricité. Puisqu'avec l'électricité, on peut attirer l'investissement extérieur. Au-delà de ça, on ne peut pas parler de la stabilité du pays, soit de la croissance du PIB, sans chemin de fer, sans infrastructure reliant les centres de consommation aux centres de production. Nous connaissons des sérieux problèmes. Il y a des marchandises qui moisissent dans des villages, puisque par manque de routes de dessertes agricoles. Là, c'est tout un problème. On nous a promis des ports, on nous a promis des infrastructures. On n'a pas vu ça. Au-delà de ça, vous savez, Stanley avait dit ceci. Sans chemin de fer, le Congo ne se développera jamais. Mais maintenant, je suis en train de conclure, d'accepter, de gober ces principes-là de Stanley. Parce qu'aujourd'hui, M. Pierrot, la SNCC ne s'est pas organisée ces trains vers Mouneditu, vers Kindu, vers Dilolo, vers Congolo. Or, en son temps, c'est Congolo qui était le grenier de Lubumbashi. C'est Kananga qui a provisionné Lubumbashi. C'est Dilolo qui a provisionné Lubumbashi. Maintenant, ces trains-là n'existent plus. Lorsque les marchandises sont entassées dans les magasins, les marchandises prennent même 6 mois. Comment est-ce qu'on peut se suffire? Puisque sans une économie stable, on ne parlera jamais de développement. Et puis au-delà de ça, il faut motiver les travailleurs. Si les travailleurs de la SNCC qui exploitent le chemin de fer sont impayés pendant 362 mois et que les DG ne se trouvent même pas être interpellés, comment est-ce qu'on va parler du développement? Vous savez, si tous les préalables là sont rencontrés, on peut dire qu'il y aura développement. Mmh. Puisqu'en ce qui concerne les ressources humaines, nous avons les ressources humaines. La jeunesse est en floraison. Nous avons une forte démocratie. Mais il faut maintenant savoir exploiter cette démocratie. Au-delà de ça, il faut bannir la corruption. Puisque notre système est truffé de la corruption, à commencer du sommet du pays jusqu'au petit peuple. Et aussi longtemps que cela n'est pas élagué, on ne fera absolument rien. Et nous demandons qu'il y ait la conscience, la volonté de nos dirigeants pour nous amener à un bon développement. Vous savez aujourd'hui, M. Pierrot, ici à Lubumbashi, la farine de maïs revient à 30 000 francs congolais. Et comment est-ce qu'on peut parler du développement? On a créé ici les villages agricoles par M. le gouverneur. Nous ne savons pas où sont passés ces villages agricoles-là. Rien, on ne trouve pas de maïs même sur le marché. Maintenant, et ça que c'est en train de... On dépend de la Zambie. Entre-temps, on nous parle de notre souveraineté. Souveraineté économique ou de souveraineté politique.
Mmh. Alors, moi, voilà, merci. Merci beaucoup. Merci Sonville. Voilà, merci Sonville. Vous avez soulevé quand même des questions assez intéressantes. Vous avez dit la croissance économique ne peut être boostée que quand il y a l'électrification, parce qu'avec l'électrification, on peut avoir des investissements. La question des infrastructures, vous avez évoqué le chemin de fer aujourd'hui avec tout ce qu'il y a eu comme corollaire sur les déficits de la SNCC, les travailleurs qui ont autant de mois impayés. Mais vous avez quand même évoqué la question des initiatives locales comme avec le gouvernement provincial du Katanga, les villages agricoles qui pouvaient produire. Mais jusqu'à aujourd'hui, on dépend de l'importation de maïs qui vient de la Zambie. Voilà autant de questions. Et vous avez chuté par la conscience, la lutte contre la corruption. Merci beaucoup, Sonville. Merci aux autres. Vous pouvez continuer à commenter les sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Nous avons en ligne notre invité Al Kitenge, analyste économique. Al Kitenge, merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Et la Banque mondiale estime que si le gouvernement africain investisse, s'ils arrivent à privilégier les capitaux humains, surtout en ce qui concerne la location de ressources de l'État, d'une manière équilibrée, on peut avoir à maintenir la croissance économique, mais pourquoi pas aussi la booster pour lutter contre la pauvreté. Et nous revenons dans le cas de la RDC. Vous avez suivi les compatriotes qui se sont déjà exprimés. Nous avons eu 3,2% jusqu'au mois de juin 2017 de croissance par rapport à 2,4% en 2016. Et aujourd'hui, on sait aussi ce que la RDC représente sur le plan du déboom minier avec les cobalt. Alors, quels sont les préalables aujourd'hui pour que cette croissance soit maintenue et surtout que la population puisse la ressentir à Kitenge?
Merci beaucoup. J'aime votre question qui est pluridimensionnelle. Mais je voudrais d'abord commencer par dire qu'il faut faire attention avec les publications de la Banque mondiale parce que c'est des publications générales. Elles concernent, en ce qui concerne pour le cas actuel, l'Afrique entière. Il faut rentrer dans le rapport pour regarder ce qui est dit de manière particulière sur le Congo. Et même lorsque vous regardez ce qui est dit de manière particulière sur le Congo, il faut être en mesure de regarder province par province. Parce que nous avons une telle hétérogénéité que nous ne pouvons pas dire la même chose de partout. Je donne quelques éléments simples. Vous parlez du capital humain. Vous savez que 80% de nos populations sont dans les milieux ruraux. Et là-bas, le niveau de compétitivité des individus est extrêmement faible du simple fait qu'on n'y a pas investi ni pour la santé, ni pour l'éducation de manière sérieuse. Ça veut dire qu'en fait, il y a une dichotomie déjà entre l'urbain et le rural. Deuxième chose, on parle de l'allocation des ressources. Bien entendu, vous le savez très bien que Kinshasa consomme la plus grande partie de l'argent de l'État, alors que Kinshasa, en grande partie, ne produit pas grand-chose. Mmh. Kinshasa est un centre de consommation. Mais si vous regardez de manière générale, 80% de nos budgets sont consommés en milieu urbain et 20% en milieu rural, alors que nous sommes en situation inverse. La plus grande partie de notre population est en milieu rural. Ça veut dire qu'en réalité, lorsqu'on dit PIB par tête d'habitant, ça veut dire que 80% de notre population ne contribue pas de manière formelle et directe à l'économie parce qu'ils constituent une espèce de sous-pays dans le pays. C'est des gens dont le pays ne reçoit absolument rien parce que le pays ne leur donne pas du tout non plus de services publics. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un véritable problème de gouvernance de manière générale. Une grande partie de notre population n'est pas sous le commandement de l'État. Une grande partie de notre territoire n'a pas l'empreinte de l'État. L'Église catholique et les GSM sont beaucoup plus implantés que l'État et c'est quelque chose qu'il faudra prendre en main de manière sérieuse. En fait, en parlant de gouvernance, je voudrais parler de l'efficacité de la gouvernance. Il n'y a pas efficacité de gouvernance si vous n'avez pas un plan général de développement. Ce qui manque dans ce pays, c'est qu'est-ce que nous désirons faire, ce qui pourrait permettre que les ressources que nous avons soient allouées de manière voulue, volontaire, dans un cadre bien déterminé. Je parle de plus en plus des millions et des milliards invisibles, dont on ne voit pas des effets. C'est tout l'argent que nous recevons de nos différents partenaires sous différents formats, que ce soit des dettes que nous contractons vis-à-vis de la Chine, des dons ou des dettes vis-à-vis de partenaires multilatéraux ou bilatéraux, mais dont il n'y a pas d'effet simplement parce que ça ne rentre pas dans un cadre organisé. Vous parlez du boom minier, ça me fait rire. Lorsque vous regardez les secteurs miniers tout mis ensemble, nous ne dépensons même pas 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires global. Ce qui veut dire qu'en fait, pour l'État congolais, il ne faut même pas s'attendre à près de 2 milliards de dollars. De quel boom on parle ? La vérité, c'est que si vous désirez parler du Congo, il faut parler de la diversification économique. Et la diversification, c'est deux choses. C'est une diversification géographique, d'abord. Il faudrait que le pays respire de partout. Il y a des zones mortes dans notre pays et c'est inacceptable. Il y a des endroits qui ne produisent absolument rien et qui ne contribuent même pas du tout à la vie du pays. Bien entendu, en contrepartie, ils ne reçoivent rien du tout. La deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle la diversification verticale. Il est important que nous quittions le secteur minier comme étant le seul secteur qui peut réellement nous permettre d'avancer. Il faut regarder les autres secteurs et il y en a beaucoup. Et pour cela, je voudrais revenir sur le plan stratégique de développement. Il y a des préalables. Un des préalables, c'est ce qu'on appelle l'énergie. Et nous, la République démocratique du Congo, Dieu nous a fait une grâce incroyable. Par tête d'habitants, nous avons un potentiel hydroélectrique qui est l'énergie propre qui dépasse tous les potentiels du monde. Et seulement, ça reste un potentiel. Et tant qu'on n'a pas investi dedans, il sera difficile pour nous d'attirer les industries ou même de transformer les matières premières que nous avons ici. C'est ce qui, justement, est en train de planter le décor de la catastrophe minière que nous sommes en train de connaître pour l'instant. Ça veut dire qu'en fait, les gens extraient les matières premières, les transforment à peine et les renvoient à l'extérieur. Et demain, nous irons acheter la terre pour venir remblayer les trous.
Alors, Alkitenge, vous et moi, je me rappelle, il y a deux ans, nous avons fait un débat d'un parole aux auditeurs autour du plan du développement pour les 30 ans à venir de la RDC. On a fait ces débats, nous étions avec vous d'un parole aux auditeurs. Et parce que vous avez évoqué la question du plan général du développement, mais à quel niveau se trouve exactement le problème qui fait qu'on ne sente pas ces plans général du développement? Est-ce que c'est un problème de conception? Est-ce que c'est un problème de priorité?
D'abord, parce que nous n'en avons pas un, parce qu'un plan stratégique de développement est différent d'un plan stratégique d'un parti politique ou d'un groupe de partis politiques. Nous n'avons pas aujourd'hui dans ce pays un plan stratégique qui concerne aussi bien les gens qui sont au pouvoir que les gens qui sont à l'opposition. Il y a eu plusieurs tentatives de plan stratégique et récemment, le ministère du plan a publié ce que moi j'appelle une ébauche d'un plan stratégique, mais ce n'est même pas encore entré en application et même que ce n'est même pas encore diffusé de manière viable, ça n'a pas été soumis non plus à la vindicte populaire pour que les scientifiques, les opérateurs économiques et tout le monde soient en mesure de donner sa contribution. Et je pense que le jour où nous aurons effectivement un plan stratégique admis, connu par tout le monde, le plus faible des stratèges, c'est que la première chose que nous devrions être en mesure de faire, c'est de mettre en place une grande société multinationale qui peut investir dans la conversion du potentiel hydroélectrique en infrastructure de production d'énergie. Mmh. Et cela doit être en même temps que le plan d'absorption de cette énergie, aussi bien localement dans la région que sur le continent et même dans le monde. Et il est donc important pour nous de savoir par quoi nous commençons, quel est notre avantage comparatif.
On va revenir à vous, Alkitenge. C'est très intéressant, surtout sur cette question du plan stratégique de développement, parce que vous avez dit il est différent de ce qui est conçu au niveau des partis politiques. Mais rappelons quand même que ce sont ces partis politiques qui accèdent au pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition, tout comme du côté de la majorité. Et si on n'est pas en mesure d'avoir ces plans déjà au préalable conçus, et quand on accède au pouvoir, ça sera encore très difficile, on risque de pouvoir naviguer à vue. Gaston, vous êtes ici à Kinshasa. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour. Mon cher.
On vous écoute.
Bon, Pierrot, vous savez que on a parlé plusieurs fois de cette thématique, mais pour aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on puisse plus insister sur l'aspect production de la population comme je ne sais pas voir. Parce que vous savez, les Congolais, à mon avis, ne sont pas transformés. Par le fait qu'ils ne sont pas transformés et ne produisent pas dans tous les domaines presque de la vie. Les pays qui produisent, ils font ce qu'ils font. Mais il y a un problème aussi au niveau des canalisations, ou soit des recouvrements des recettes, hein, si je peux dire ainsi. Vous savez, dans un pays où l'impôt contribue à 80-70%, c'est dans ces pays qu'on peut prétendre avoir la croissance. Le peu de gens qui travaillent, qui versent l'argent, ou soit qui ne versent même pas, qui travaillent en connivence avec les agents de l'État, qui mettent l'argent de l'État dans leur poche, payent quand même, hein, ils payent quand même l'impôt, mais cet impôt est mal, soit mal utilisé, ou soit n'est même pas, n'arrive même pas dans la caisse d'État. On ne peut pas prétendre avoir l'État congolais demain devenir aussi un commerçant. De même manière que la population ne produit pas, notre État aussi ne produit pas. Vous savez, l'État, dans notre siège, a des industries, a des entreprises, si je peux dire ainsi, qui contribuent dans la vie sociale et économique de la population. si notre État ne pouvait que se comporter ainsi, il pouvait aussi pallier à la, aux failles de la population, parce que j'insiste et insiste que la population congolaise doit être transformée dans le sens de produire. Et puis cette population doit être aussi accompagnée, parce que vous savez, on a des terres arables ici, on a des gens, des familles qui se battent jour et nuit à produire tant soit peu, surtout dans les domaines agricoles, il faut dire tant soit peu. Mais il faut voir c'est que la manière dont nous consommons ce produit local, ce sont des produits qui ne sont même pas consommés, si je dirais ainsi. On préfère mieux consommer des choses qui sont importées. Vous savez, de vivre frais actuellement, c'est d'actualité, hein, c'est à la page. Et pourtant, ces produits-là ne sont pas produits, ces marchandises ne sont pas produits ici. Donc moi, je pouvais aussi insister sur l'aspect transformation des choses sur place ici. Vous savez, l'homme blanc a voulu pérenniser la domination de l'homme noir en voulant que les industries de transformation se trouvent sur son territoire là-bas. Ils viennent ici prendre les produits à l'état brut, ce que nous exportons aussi, qui en réalité qui ne coûte pas grand-chose, et ils sont transformés là-bas. Si on avait la politique, je ne sais pas si cela dépend de nous, mais si on avait des machines qui pouvaient transformer des choses ici, ce serait une bonne chose. Je me demande même les universitaires que nous produisons ici. Hein, c'est parce que les machines de transformation, ce sont des savants, des ingénieurs qui produisent ça ailleurs. Mais non, savants, je ne sais pas si ce sont des universitaires théoriques.
Question de l'adaptabilité même de notre programme, parce qu'on a eu plusieurs débats dans Parole aux auditeurs, où beaucoup de gens ont estimé qu'il faudrait que l'école aujourd'hui ait un objectif précis, qu'on sache qu'on forme les gens pourquoi, les universités forment les gens pourquoi, c'est-à-dire qu'on ait un programme de formation qui s'adapte aux réalités de la RDC, qui produise des gens qui sont capables de transformer la société. Mais pour vous, il faut que l'homme congolais soit transformé, qu'il soit plus un producteur qu'un consommateur, mais il faut un accompagnement de l'État. Alki Tengeli disait tout à l'heure, il faut diversifier, n'est-ce pas, l'économie. Et vous pensez qu'il faudra accompagner aujourd'hui les Congolais dans la production agricole, par exemple? C'est une question très importante. 081-890-49-69, 081-890-49-69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs.
Et nous vous annonçons que demain à 10h, l'émission Parole aux auditeurs est consacrée au prix Nobel de la paix, la question des violences sexuelles. Et nous serons avec le prix Nobel de la paix lui-même, Dr Denis Mukwege, dans cette émission. Posez déjà vos questions sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs déjà cet après-midi et vous pouvez vous inscrire pour ce magazine. Et nous retournons ici à Kinshasa avec vous, Alki Tengé, la question économique. Il y a ses compatriotes qui sont revenus sur ce que vous avez dit tout à l'heure, l'énergie, la question de la production, mais comment on peut arriver à avoir une population qui produit quand on sait aujourd'hui que plus de 70-80% d'activité économique de plusieurs personnes en RDC se déroule sur les secteurs informels?
Merci beaucoup pour votre question. Je voudrais d'abord revenir sur l'intervention du monsieur tout à l'heure. Il dit quelque chose de très simple. Il dit il faut produire des hommes capables de faire ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Ça revient à ce que je disais, il faut avoir un plan, il faut savoir ce que vous voulez. Le capital humain est juste une ressource comme toutes les autres ressources. Le capital humain se planifie en fonction de ce que vous avez décidé de faire. Tant que vous n'avez pas encore décidé de ce que vous voulez faire, vous aurez des hommes qui sont en inadéquation totale par rapport aux missions. C'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous naviguons à vue, et c'est très dangereux. Je voudrais revenir sur des choses simples. L'économie formelle et l'économie informelle. Tenez-vous bien. Nous avons seulement 5% de notre population active qui travaille dans le secteur formel. Il n'y a aucune théorie économique, aucune au monde, qui peut permettre que vous puissiez envisager un quelconque démarrage économique ou un quelconque progrès soutenable avec seulement 5% des gens qui travaillent. Et donc, ça pose toute la question du contrat social entre les citoyens et l'État. Aujourd'hui, pour des problèmes de gouvernance ou de mal-gouvernance, il y a un divorce total qui fait que, justement, l'État n'a pas la capacité de faire pression sur le citoyen pour qu'il s'enrôle dans un contrat social classique où l'État prélève les impôts et les taxes et il donne en contrepartie des services sociaux de base. En l'occurrence, les soins de santé et surtout la formation et bien entendu également les différentes infrastructures. Vous savez, dans tous les pays du monde, dans la planification, il y a des choses simples. Il y a ce qu'on appelle les différents cadastres. Il y a un cadastre minier qui détermine où sont les réserves minières. Il y a un cadastre forestier qui dit où sont les forêts exploitables et celles qui peuvent être préservées. Il y a un cadastre agricole qui détermine les terres arables et où est-ce qu'elles sont. Il y a un cadastre pétrolier et bien entendu un cadastre des infrastructures et un cadastre des logements. À partir du moment où vous avez déterminé ça, tout le monde sait de quoi il s'agit et tous les pays sérieux et intelligents, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des appels d'offres. Ce sont les États qui décident de ce qu'on voudrait réellement faire. En ce moment-là, les différents intervenants sont appelés dans un cadre de visibilité à long terme et ils viennent s'installer ici, non pas pour faire du commerce, mais pour faire des affaires. Ça veut dire qu'ils s'installent et ils restent avec nous parce qu'ils ont la visibilité sur le long terme. C'est nous, faute de cette visibilité, nous avons beaucoup plus de commerçants, des gens qui viennent faire des coups à la République et qui partent. Regardez le temps de résidence de nos différents titres miniers entre les mains des individus. Ça change chaque 3 ans, ça change chaque 5 ans. Ça veut dire qu'en fait, les gens, en réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils acquièrent, ils transforment un petit peu, ils revendent avec une plus-value et ils s'en vont. Je reviens sur quelque chose d'autre, la Caisse nationale de sécurité sociale. Si nous n'avons pas suffisamment de gens qui travaillent, il sera difficile d'avoir de l'argent dedans. Mais je voudrais vous donner une illustration, c'est l'Afrique du Sud. Ce qu'ils appellent le Government Employees Pension Fund, c'est le fonds de pension des employés de l'État, ça pèse 254 milliards de dollars. Les grandes transformations des 20 dernières années que vous avez vues en Afrique du Sud ont été financées par la Caisse nationale de sécurité sociale. Ça veut dire qu'en fait, c'est la caisse des caisses, c'est l'argent de tout le monde. Et il est important que nous soyons en mesure d'être créatifs. Il est important que les gens comprennent que la seule chose qui peut nous faire avancer, ce ne sont pas les promesses politiques, c'est le travail. Et encore une fois, le travail formel.
On revient à vous, le temps d'écouter Elie qui est en Bandaka. Elie, on était avec vous tout à l'heure sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Vous avez suivi notre invité. Et quel est votre point de vue, Elie?
Oui, merci de m'avoir invité dans ce débat de la parole aux auditeurs. Je remercie l'intervention de l'invité. Et si on fait d'abord l'allusion par rapport aux études menées par la Banque mondiale, je pense que la Banque mondiale a essayé un peu de mener des études un peu non partisanes. Compte tenu du panorama de l'Afrique subsaharienne, on sait début de compte tenu de l'année 2017-2018, qu'il y a des bonnes nouvelles qui sont un peu nombreuses. On note d'abord une croissance record de près de 5% par an, au moins d'ici la période de 2000 et 2014. C'est en quelque sorte une certaine avancée et qui se montre au regard de la croissance macroéconomique en Afrique. Mais continuant compte tenu de lourde pression démographique de près de 2% par an, au moins de revenus par tête, a progressé depuis de 40% depuis le début du siècle. Et en tout cas, je pense qu'en Afrique subsaharienne, il y a des États qui se sont montrés capables de pouvoir aller au-delà avec la production des matières dans leurs entités territoriales. Mais ça pose un véritable problème pour notre pays, la RDC. Et c'est parce que nous sommes un pays, comme le disaient les auteurs, un pays potentiellement riche, 60% de la biodiversité forestière, et que la RDC aujourd'hui a un problème pour la production de toutes ces matières. Et ça semble s'avérer tout à fait regrettable dans un état où nous avons la potentialité. Je pense que les précédents intervenants ont essayé de parler sur les problèmes de la production et de la transformation dans notre pays. Donc aujourd'hui, la RDC, nous avons les matières premières, nous avons les forêts, nous avons toutes sortes de matières, mais ça pose un problème pour les gestionnaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une véritable politique pour la production des matières dans notre pays. Et donc aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle de la croissance macroéconomique, on voit les taux de productivité. C'est-à-dire que sur le plan minéré, nous avons produit par an combien de tonnes, sur le plan des cobalt, sur le plan des diamants, des coltans, chaque année nous produisons combien, nous les transformons pour la consommation dans notre pays, à combien de pourcentage, Et aujourd'hui, ça pose un véritable problème. C'est pour cette raison, vous allez vous rendre compte que les budgets de l'État, qui chaque année n'atteint jamais un pourcentage élevé. Nous restons sur les 5 milliards, nous restons sur les 4 milliards, nous n'atteignons jamais les 10 milliards de dollars par an. Parce qu'il n'y a pas une bonne politique de gestion et une bonne politique pour la production. Et en quelque sorte, vous allez voir que les budgets ne facilitent pas la gestion des secteurs sociaux de base pour la RDC. Regardons aujourd'hui les secteurs tels que l'éducation, les secteurs de santé, les secteurs des infrastructures, ça pose un véritable problème pour l'émergence. Tout simplement parce que la politique de gestion n'est pas assez rassurée. Et la deuxième chose, ce que j'aimerais encore dire, que je pense que un intervenant l'avait déjà soulevé, c'est-à-dire on ne peut toujours pas avoir des matières, on ne peut toujours pas les produire ici et les exporter pour la production dans un état autre que la RDC. Si et seulement s'il y a une politique que nous ne connaissons pas, pourquoi est-ce que le politicien congolais qui gère l'État n'arrive pas à appeler les investissements industriels ici au pays pour la transformation des matières? Donc, dans cette façon-là, vous allez voir que le Congo va aller vers l'émergence de ces institutions.
Merci, merci beaucoup, Eli. Mais Eli, quand vous évoquez la question, Eli, quand vous évoquez la question de la transformation, ça dit qu'il faudrait aussi trouver le marché. Mais là, vous vous êtes focalisé sur les secteurs miniers. Il y a, notre invité le disait tout à l'heure, on a eu plusieurs débats où on estime qu'on ne va pas continuer éternellement à fixer ses yeux sur la production minière pour pouvoir construire le pays. Ça dit qu'il faut voir aujourd'hui quelles sont les autres potentialités de la RDC. On en a beaucoup. Vous avez parlé des 60% de la biodiversité mondiale. Cela veut dire que la RDC peut explorer d'autres secteurs aujourd'hui. Mais la question de la gouvernance, elle est importante parce que vous l'avez dit, il faut une bonne politique puisse permettre des investissements et ces investissements qui puissent se produire. Merci beaucoup, Eli Bondis. Vous êtes à Lubumbashi. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour, Radio Capi. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole.
On vous écoute.
Mon intervention va porter essentiellement sur deux points. Le premier point, c'est une partie historique, une justification historique de l'état de sous-développement de nos pays. Le deuxième point va concerner le développement proprement dit. Alors, je commence par le premier point. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, lorsqu'un pays envahit un autre pays, comme c'était le cas de la RDC dans les années 1800, les envahisseurs, ils ont commencé par occuper les sites de production de minerais de fer. Pourquoi ça? Eh bien, parce que c'est à partir de ces sites-là que les Congolais pouvaient fabriquer des armes pour combattre les envahisseurs. Et une fois qu'ils ont envahi tous ces sites là-bas, ils ont non seulement tué, massacré tous les producteurs qui étaient sur place, mais ils ont supprimé tous ces sites d'exploitation. Conséquence, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun investisseur qui peut venir en RDC investir dans le domaine de la sidérurgie, c'est-à-dire exploiter le minerai de fer. Tous ceux qui viennent, c'est dans les autres domaines miniers, mais jamais, jamais dans ce domaine-là de la sidérurgie. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils investissent dans ce domaine-là, les Congolais pourront enfin décoller. Ils pourront utiliser ce minerai de fer, le transformer et fabriquer des machines. À partir du moment où vous pouvez fabriquer des machines, vous pouvez maintenant aller dans tous les autres domaines. Par exemple, quand on a parlé du domaine électrique, électricité, là, vous avez des alternateurs, vous avez des transformateurs, vous avez des machines dont la base, c'est le fer, le minerai de fer. Si vous pouvez vous-même fabriquer ces machines-là, à ce moment-là, vous avez ce qu'on peut appeler l'indépendance technologique. Sans cette indépendance technologique, tout ce que vous allez faire, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Parce qu'à partir des machines, vous pouvez construire des locomotives, vous pouvez construire des rails, et à ce moment-là, si vous avez un pays où vous avez des rails qui parcourent tous les pays, tous les villages, mais à ce moment-là, la production des villageois, la production des paysans, peut facilement arriver dans les centres de consommation. Et à ce moment-là, le villageois peut se retrouver et peut être encouragé à produire davantage. Parce qu'il sait qu'une fois qu'il a produit, il peut facilement écouler sa marchandise dans le pays.
Mmh.
Et si ce n'est pas consommé dans le pays, il peut même quitter le pays, aller vendre ailleurs, puisqu'il y a les voies de communication. Mais si vous, dans votre pays, vous comptez uniquement sur les investisseurs extérieurs, étrangers, mais quand allez-vous vous libérer de l'extérieur? C'est quand? Vous faites des siècles et des siècles. Vous serez toujours dépendant de l'étranger.
Merci. Merci beaucoup, Bondige, pour cette analyse. Vous avez estimé que dès lors que les sites d'exploitation du minerai de fer ont été bloqués, la sidérurgie pose problème. Les Congolais ne sont pas capables juste de fabriquer de machines, ne peuvent pas se suffire à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que bloquer la sidérurgie, l'accès au minerai de fer, c'est automatiquement empêcher les Congolais à pouvoir fabriquer des machines, à pouvoir résoudre le problème. Et aussi longtemps qu'on dépendra des capitaux extérieurs, ça sera très difficile aujourd'hui de pouvoir parler de la croissance et surtout de voir les conditions de vie de la population changer. Merci beaucoup, Bondige. Nous revenons ici à Kinshasa avec vous, Omar. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Pierrot Lamégé. Bonjour à l'invité.
On vous écoute, Omar.
Merci, Pierrot. J'ai pris l'émission en cours, mais je pense qu'on parle de l'économie dans notre pays et de son impact sur le social des Congolais. Fouetsbani disait, lorsque l'économie d'un pays s'arrumeut, la politique tousse. Donc c'est vraiment important qu'on en parle. Mais au-delà des facteurs soulevés par d'autres intervenants, moi je pense que si aujourd'hui notre économie n'arrive pas à satisfaire nos besoins, au-delà des facteurs et des causes soulevées, je parle de la torpeur de l'élite congolaise. Je l'ai toujours dit, Pierrot, l'intelligence économique, juridique ou politique ne s'imite pas à parler français, mais aussi à utiliser ce cerveau pour apporter des solutions. Nous avons beaucoup d'économistes dans ces pays. Regardez les théories qui développent, monsieur l'invité, sur votre plateau. Mais pourquoi on n'arrive pas à mettre cela en œuvre pour que ces pays décollent? Nous avons connu un des grands intervenants de la radio au Capi, permettez-moi de le citer, mais c'est Michel Somou, qui nous faisait des belles leçons d'économie. Mais une fausse affaire en tant que durcap premier ministre. Aucune pratique n'a été faite. Donc je dénonce là une certaine indifférence de l'élite congolaise qui est soit là, ne contribue pas à l'or du pays, soit encore une fausse affaire, oublie son intelligence pour faire autre chose. Deuxièmement, moi je pense qu'il y a un problème sérieux de la faiblesse de la volonté politique. Nous avons tout, des élites, des stratégies, les lois ont été prises sur tous les domaines, les investissements, les réformes ont été faites, les colloques ont été faits. Pourquoi rien n'avance? Pourquoi on n'arrive pas à satisfaire le besoin fondamental des gens? C'est parce qu'il n'y a pas la volonté politique. Alors moi je pense, comme le temps fait défaut, premièrement, le premier pas vers notre développement réel passe par les changements des mentalités. Le développement a deux aspects. Il n'y a pas seulement l'aspect quantitatif, où on voit la croissance des richesses, mais aussi l'aspect qualitatif. Le premier pas vers les changements des mentalités, et de ceux qui gouvernent, et de ceux qui doivent penser économie, et de ceux qui sont gouvernés. Deuxième chose, il y a un problème sérieux. Il faut qu'il y ait, comme le disait le professeur américain Kerloff, une politique budgétaire, économique et monétaire forte. Parce que l'économie d'un pays se repose sur deux béquilles. Sa politique budgétaire et sa politique monétaire. Quel budget avons-nous par rapport aux attentes de nos populations? Deuxième chose, quelle est la politique monétaire que nous appliquons? Mais je pense et je finis par la volonté, cher Pierrot. Le jour où on aura des gens qui ont la volonté de bien faire les choses comme ailleurs, le jour où on aura la capacité d'organiser les choses, toutes les théories que nous soulevons vont vraiment être en pratique. Voilà ma petite contribution et mes inquiétudes par rapport à l'indifférence, l'incohérence entre l'élite qui existe et la réalité sur terrain.
Merci beaucoup. Merci Omar. Merci beaucoup, Omar. Vous avez parlé de la torpeur. Nous revenons à vous, Alki Tengue, analyste économique, notre invité dans ce magazine. Vous avez suivi les commentaires qui sont exprimés, ainsi que l'écrit de Maître Omar. Quelle est votre réaction par rapport à ce qui venait d'être dit par les compatriotes Alki Tengue?
Merci beaucoup. Je voudrais dire quelque chose de très simple. Ça peut paraître fort, mais je vais le dire. Il faut faire très attention lorsqu'on parle de la gestion d'un pays. Il s'agit d'un territoire et il s'agit de personnes. C'est donc une question très sérieuse. Regardez ce qui se passe avec l'accident que l'on a connu sur la route du Bas-Congo. Le pays est totalement incapable et désemparé. Ça montre des faiblesses notoires dans la structure même de gestion. Mais figurez-vous qu'il y a 2-3 ans, on a eu exactement la même chose à Sangué. On a perdu le contrôle de la même manière, mais on n'en a tiré aucune leçon. Ça voudrait dire simplement ceci. L'impréparation a un coût catastrophique. Un pays sans plan stratégique de développement, un pays sans plan opérationnel, un plan sans indicateur de performance, un pays sans indicateur de performance ne peut pas avoir des résultats. Je voudrais revenir sur autre chose. La performance de la gouvernance est liée non pas à son élite, mais surtout à sa discipline. Lorsque les gens parlent de volonté politique, en fait, il faut résumer ça dans la discipline d'exécuter les choses sur lesquelles on s'est engagé. Et ça, ça revient à ce que j'appelais devant le contrat social. Mais vous savez, nous sommes un pays un peu difficile. Et il faut le comprendre. Nous avons donc besoin de nous programmer dans le temps. C'est pour ça que la plus grande indépendance que nous devons avoir, c'est l'indépendance de l'intelligence. Être en mesure de concevoir nos propres plans, être en mesure de concevoir notre propre vision, être en mesure de distinguer ce qui est bon pour nous de ce qui est bon pour les autres. Ne pas être dans le plan des autres. Maintenant, je reviens sur des choses simples. 106 000 mégawatts de potentiel hydroélectrique, cher ami, c'est l'équivalent en revenu net de 85 milliards de dollars au bas mot. Ça veut dire qu'en fait, si nous avons une urgence aujourd'hui, c'est d'investir dans un réseau national et international intégré de distribution d'électricité qui va accueillir le potentiel qui est disséminé sur l'étendue de la République et avec le plus grand potentiel sur un seul site qui est celui de Inga de 40 000 mégawatts. Il est donc important qu'on comprenne qu'on doit commencer par là et ça va tirer le reste. On parle de croissance économique. Je voudrais juste faire une illustration pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Lorsque vous avez 1 million comme base et on dit que vous avez 1% de croissance, vous avez fait une création de richesse nette de 10 000. Si votre compatriote a 10 000 et il a fait une croissance de 1%, il a fait 10%, il a fait 10 unités. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas comparable. La croissance économique, bien sûr, mesure la dynamique d'un pays. D'ailleurs, il faut parler de la croissance nette, ça veut dire diminuer de la croissance de la démographie. Il est donc important de savoir que la croissance à elle seule ne détermine pas si oui ou non un pays avance bien. Même la plupart des pays dont on dit qu'ils avancent à 5, 6, 7%, ça reste quand même des pays pauvres et même des fois très pauvres. Il est donc important d'avoir ce qu'on appelle la masse critique pour être en mesure de commencer quelque chose qui tienne compte de tout le monde. Et c'est pour ça que je dis, notre pays ne doit pas répondre à des théories économiques des années 45. Nous devons être en mesure de regarder notre pays avec sa réalité, ses potentiels, et être en mesure de lui donner un plan qui dépasse celui de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de nos amis chinois et de tous les autres. C'est à nous de produire où est-ce que nous voulons être dans 10 ans et quel avenir nous désirons donner à nos enfants. Et nous avons suffisamment de potentiel pour ça. Il est criminel de notre part d'avoir autant de potentiel et de ne pas être en mesure de préparer les générations à venir à un monde de compétitivité. Je crois qu'il est important de dire la vérité à nos populations. À 5 milliards de dollars de budget, même si on met un magicien, il ne fera absolument rien. À 10 milliards de dollars, il ne fera absolument rien. Ce pays pourra commencer à bouger un petit peu dans le cadre actuel de la population lorsque nous atteindrons 50 ou 60 milliards de dollars de budget. Et ce n'est pas impossible. Et ça, c'est un vrai minimum pour que nous commencions à voir des différences. Parce que il y a des investissements qu'il faut faire sur 15 ans, aussi bien dans les infrastructures que dans la restructuration du capital humain, pour commencer à avoir un pays plus ou moins normal. Mais ça, ça dépasse les langages politiques. Il est important que nos universités soient en mesure de donner des indicateurs de développement qui soient carrément réels et qui soient vraiment domestiques. Parce que notre réalité est très différente du Rwanda, notre réalité est très différente du Gabon, notre réalité est très différente du Congo-Brazzaville, du simple fait que nous n'avons pas la même taille du territoire, nous n'avons pas la même population. Nous avons des contraintes qui ressemblent beaucoup au Nigeria, mais le Nigeria a le pétrole que nous n'avons pas. Nous, on a bien plus que le pétrole, on a le potentiel hydroélectrique qui est inépuisable. Et donc notre planification doit être différente et pour ça, ça doit dépasser les couleurs politiques.
On revient à vous tout à l'heure pour conclure cet échange Alki Tengue. Le temps d'écouter Maître Pascal qui est à Dungu. Merci de nous avoir rejoint. Maître Pascal, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à la radio Capri. Je présente tout d'abord mes condoléances aux compatriotes qui espèrent que la terre de Dungu. Merci, monsieur le journaliste, pour le sujet d'aujourd'hui. Je vois, à mon humble avis, qu'il faut qu'il y ait la politique active du gouvernement en matière. Alors, Monsieur le journaliste, vous savez que nous avons beaucoup de confiance dans notre pays, que nous ne bénéficions à rien, que d'autres pays voisins bénéficient à ça, monsieur. Alors, je vais prendre pour deux secteurs. Il y a le secteur minier ainsi que le secteur agricole. Alors, monsieur le journaliste, vous allez comprendre que dans le secteur minier, ici, à ce qui concerne nous, dans la province de Haute-Ville, nous avons le multi international appelé Kibali Gold Mine qui produit tant de kilos, tant de mètres cubes d'or par jour, monsieur le journaliste. On n'en bénéficie à rien. Même les routes n'est pas bien réhabilitées. Alors que la population de Tourba et de Ouacha, où le milieu international sont installés, souffre de plus en plus. Mais le gouvernement de notre pays voit ça, mais sans autant réagir. En ce qui concerne le secteur agricole, monsieur le journaliste, nous avons la terre fraîche. Et nous avons milliers de kilomètres, monsieur le journaliste, sans exploiter. Donc, si le gouvernement pèse, ou le gouvernement qui pèse aussi...
Investir dans le secteur, parce que là, on doit permettre... on va permettre à notre invité de conclure, mais vous avez là soulevé la question du contraste entre la paupérisation des populations qui vivent dans le milieu où les minerais sont exploités. On en a fait les débats avec cette question de la révision du code minier. Vous estimez qu'il y a des sociétés qui sont installées dans des localités où les populations vivent tellement pauvres et que ces sociétés exploitent. Merci beaucoup, mais vous avez évoqué le cas de la tragédie du Congo central. Parole aux auditeurs reviendra pour analyser cette tragédie et surtout la question de faire face aux urgences, on en parlera. Il est temps d'accorder la parole à notre invité, Alki Tengué, pour chuter et conclure cet échange.
Merci beaucoup. Moi, je conclurai cet échange de manière assez simple. C'est très bien que la Banque mondiale et d'autres institutions produisent des études. Je disais tout à l'heure, la plus grande indépendance, c'est celle de l'intelligence. Moi, j'en appelle à nos universités, à nos universitaires. C'est à eux de produire les plans locaux, c'est à eux de produire les visions réelles du pays, mais également des provinces, mais également des communes, pour que le problème soit résolu de manière de proximité, pour que nous donnions des réponses réelles et non des réponses génériques. Il est donc très important pour nous de nous approprier le développement de notre pays, déjà au niveau de sa conception. Deuxième chose, il nous faut un plan stratégique de développement qui nous aligne dans les 30 prochaines années, dans les 15, 10 et 5 prochaines années. Que nous ayons le plan national, que nous ayons également des plans provinciaux et des plans communaux. Ça nous permet de résoudre les problèmes au plus près de nos réalités et merci, avec nos moyens réels. Troisième chose, ça donne la visibilité aux étrangers qui veulent venir vivre avec nous ici et se développer avec nous pour le long terme et non pour le court terme.
Merci.
Et quatrième chose, je voulais dire, l'impréparation coûte trop cher. Cet accident avec des brûlés catastrophiques qu'on transporte comme des animaux, c'est une scène qui interpelle notre conscience et il est important qu'on se rende compte que l'impréparation, merci, aussi bien dans ce secteur des transports de la santé et dans tous les autres secteurs, ça coûte trop cher.
Merci, merci beaucoup Alki Tengué. Merci beaucoup Alki Tengué. Parole aux auditeurs reviendra la semaine prochaine pour évoquer les aspects de cette tragédie. Vous l'avez dit, on en parlera parce que d'autres sont déjà survenus ainsi, y compris aussi des catastrophes sur le lac et le fleuve. On va en parler et tout en présentant aussi nos condoléances à toutes les familles éprouvées. Mais par solitaire aussi, pense à notre compatriote Maître Adrien Iloba, notre intervenant de presque tous les jours, qui a aussi perdu sa maman hier soir, à qui nous présentons les condoléances au nom de tous les auditeurs de Radio Capi. On se rappelle bien sûr, demain, nous allons évoquer le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege. On sera ensemble dans Parole aux auditeurs pour évoquer la question des violences sexuelles. Merci à Tati Mapoukou qui a réalisé ce magazine mis en onde par Jean-Claude Nsiala. Pierrot et la Meji, vous la présentez sous la supervision de Martin Sebujangwe. On se retrouve demain pour un autre numéro. Merci et au revoir. Et surtout n'oubliez pas que Parole aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net.